La paracha Tetzaveh poursuit l'exposé de ses instructions quant au sanctuaire. Apporter de l'huile d'olive pure pour alimenter les flammes perpétuelles de la menorah, par exemple. Mais la paracha décrit aussi les vêtements de lin blanc que les Kohanim doivent porter lors de leur service, également certaines offrandes, et aussi le sujet de l'encens, avec la description de l'autel en or qui était situé près de la menorah. Dans cette paracha, Hachem promet: Et je viendrai habiter au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Becharanti betor bnei Israël. Une annonce qui vient couronner tout ce qui précède, depuis le début de Bereshit, la création d'Adam, la sélection de Noé, d'Abraham, des 12 tribus des enfants d'Israël, et l'exil en Égypte également. La paracha Tetzaveh ne décrit pas les chérubins, mais elle décrit tout ce qui permet à la voix divine de se faire entendre entre les chérubins. Elle explique, cette paracha, comment l'homme fait en sorte que cette présence divine demeure. Et pour prendre une métaphore, celle du trekking, la randonnée en montagne, les Kérouvim, les chérubins, sont le sommet. Et Tetzaveh, du moins les mitzvot qui sont décrites à l'intérieur de cette paracha, sont le chemin pour accéder à ce sommet. Dans le Mishkan, alors on va d'abord aborder bien sûr la définition, et ensuite on tentera de répondre à une question clé qui est comment des sorte de statue alors qu'il y a interdiction de l'idolâtrie. Pour essayer de décrire un petit peu ces chérubins, eh bien, dans le Mishkan, les chérubins sont deux figures ailées en or massif qui se trouvaient sur le caporet. Le caporet, c'est le couvercle en or pur qui recouvrait l'arche d'alliance. Alors, une petite réflexion étymologique. L'origine de ce mot des chérubins, kérouvim, ce mot découle de keravia, comme un enfant. En effet, le Talmud dit que les chérubins avaient un visage d'enfant. Et le mot ravia, c'est un mot araméen qui veut dire tout simplement enfant. Rashi nous explique également, les chérubins ont un visage d'enfant. La symbolique est claire, un enfant représente la confiance naturelle, la spontanéité, l'absence de calcul, la capacité d'aimer sans condition. Et les commentateurs disent également que ce mot est également enfin une liaison avec le mot karov, proche. Il symbolise la proximité entre Dieu et Israël. Voilà donc tout un symbole. La relation entre Hachem et Israël doit ressembler à cela, simple, direct, entière, avec une confiance parfaite. Les chérubins se trouvaient dans l'endroit le plus sacré du Mishkan. Ils se trouvaient dans le Kodesh HaKodeshim, le Saint des Saints. Quelle est leur fonction? La Torah le dit explicitement. Je te parlerai d'entre les deux kérouvim. C'est-à-dire que la présence divine se manifestait et que Dieu parlait à Moïse. Ce couvercle, on l'appelle caporette, je l'ai dit. En bon français, ce qu'on trouve dans de très nombreuses traductions, on voit le mot propitiatoire, un mot qui a priori ne fait pas partie du vocabulaire courant. Ça vient du latin propitiatorium, mot qui lui-même vient d'un grec qui est une traduction de l'hébreu caporet. Donc faisons simple, appelons cela caporet, ce sera plus simple, ou couvercle de l'arche, pour être plus clair. J'ai défini cela parce qu'on a souvent des mots dans les traductions qui compliquent les choses d'une manière extraordinaire et à la limite, on ne comprend plus rien. Si on revient à la pureté de l'hébreu, les choses sont claires. Kaporet, ben, tout le monde fait le lien avec la racine de ce mot qui est kippour, kapara, c'est-à-dire une aptitude au pardon. On a vu donc la fonction des chérubins. Voyons leur position. La Torah et les sages décrivent deux positions différentes selon la situation spirituelle d'Israël. Quand Israël accomplissait la volonté de Dieu, eh bien, les chérubins se faisaient face, face à face, ce qui est une relation idéale, une relation paisible. Ça n'a rien à voir avec face à face, avec une acception de lutte, pas du tout. Ici, les Kérouvim, dans leur position de face à face, symbolisaient l'unité, l'harmonie, la présence divine qui résidait entre eux. Au contraire, quand Israël s'éloignait de Dieu, eh bien, les chérubins se tournaient dos à dos. Symbole clair d'une relation qui était détériorée. Ainsi, ils sont un peu un baromètre, ils étaient un baromètre spirituel, un miroir spirituel. Ils exprimaient d'une manière visible ce qui se passait d'une manière invisible dans la relation entre Dieu et son peuple. Ceci dit, abordons la question sur ce sujet. Comment la Torah peut-elle indiquer que l'on place des figures sculptées dans le temple, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan à cette époque-là, et même dans l'endroit le plus saint du tabernacle, c'est-à-dire le Saint des Saints, comment est-ce possible alors que la Torah interdit formellement toute représentation sculptée, notamment liée au culte? Les sages eux-mêmes ont été étonnés et ils ont beaucoup réfléchi sur le sujet et donné des réponses majeures, cohérentes et complémentaires. Parmi ces sages, Rambam, c'est-à-dire Maïmonide. Dans le Guide des égarés, il pose d'abord la question, bien sûr, de manière directe. Il considère ce sujet comme une difficulté philosophique majeure, car les chérubins, leur existence même, semble contredire l'interdit de l'idolâtrie. Ramban, au contraire, Ramban c'est Maïmonide, c'est, pardon, Rambam c'est Narmanide, eh bien, Ramban indique dans son commentaire, dans un de ses commentaires, la question, pourquoi cette interdiction d'image, mais cette permission des chérubins. Et il explique cela par une différence qui existe entre, d'une part, une image interdite et, d'autre part, une image ordonnée par Hachem. Voilà maintenant un troisième sage qui va nous éclairer. Et nous avons le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi. Dans son livre, le Kuzari, on assiste à un dialogue entre le roi des Khazars, un peuple turcophone qui habitait dans les environs de la mer Noire. Le roi des Khazars demande à un sage qui est venu répondre à sa demande. Le roi des Khazars avait décidé d'adopter la meilleure religion qui puisse exister et il a fait comparaître tour à tour devant lui un chrétien, un musulman et un juif. Et le juif en question va lui répondre. Donc, la question était la suivante, toute une série de questions, mais là, on est sur notre sujet. La question était: comment un peuple qui rejette les images peut-il avoir des chérubins dans son sanctuaire? Pourquoi des formes sculptées? Pourquoi dans ce lieu particulièrement sacré? Tout ça alors que l'idolâtrie est un grand interdit dans leur religion, la religion des Juifs. Eh bien, le sage va répondre, Rabbi Yehuda Halevi va répondre que les images ne sont pas interdites en soi. C'est leur usage qui peut l'être. Et donc, il répond en distinguant l'objet de l'intention. Par nature, les images ne sont pas idolâtres. Ce qui est idolâtre, ce qui est interdit, ce n'est pas la forme, c'est l'usage que l'on en fait. Et il explique que les kérouvim, ces chérubins, sont un symbole commandé par Hachem. Ils ne représentent pas une divinité, ils ne sont pas adorés. Ils sont juste, pourrait-on dire, un support de présence ou un signe pédagogique. Leur place dans le Saint des Saints renforce cette légitimité. Parce qu'en fait, le Saint des Saints, c'est un endroit où le peuple ne venait pas. Si on voulait faire une idole, elle aurait été placée devant le peuple et non pas, entre guillemets, cachée dans un endroit invisible. Leur vision était inaccessible à l'ensemble des Juifs, sauf une fois par an, au Kohen Gadol, quand il entrait dans le Saint des Saints à Kippour. Donc, ils ne sont pas une concession à l'idolâtrie, ils sont en quelque sorte un outil divin. Un autre sage vient compléter la réponse. Je parle du Sforno. La réponse est complétée, il déplace un petit peu la question, il ne se demande pas comment est-ce possible qu'il y ait des formes que l'on pourrait prendre pour des idoles dans le Saint des Saints. Non, ce n'est pas sa question, ça. Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, a répondu. Lui déplace la question, pourquoi des figures humaines ailées avec des ailes? Oh, donc pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette forme? Eh bien, le Sforno va nous répondre ainsi. La forme humaine, c'est parce que c'est l'homme qui est le réceptacle de la parole divine. Ainsi, ces chérubins symbolisent la capacité humaine à recevoir la révélation. Les ailes, pour leur part, symbolisent l'élévation, la proximité avec le monde angélique, la dimension spirituelle, si l'on veut. Le Sforno reconnaît aussi qu'il y a danger. On peut mal comprendre la chose, mais à partir du moment où les chérubins se situent dans le Saint des Saints, personne ne les voit. Et donc, ils ne sont pas objets de culte de la part de la population. Ils ne sont pas des médiateurs comme une idole. Leur fonction n'est pas cultuelle. Ainsi, de tous ces maîtres, on déduit de leur réponse que clairement, les chérubins ne sont pas une concession à l'idolâtrie, mais au contraire une sorte d'outil pédagogique ou bien un symbole théologique. Ils ne représentent aucunement Dieu, ils ne sont pas adorés, personne n'a adoré dans le judaïsme les chérubins. Ils étaient totalement invisibles au peuple. Ils exprimaient, au fond, leur fonction, qui était comme on l'a dit, d'être le baromètre de la relation vivante entre Dieu et son peuple. De fait, l'interdiction de l'idolâtrie dépend de l'intention et de la fonction de l'objet. Le Rambam Maïmonide explique clairement que l'interdit de fabriquer des images sculptées ne s'applique que lorsqu'elles sont destinées à être adorées ou à servir de représentation divine. Ce n'est pas le cas des idoles. Ils ne sont pas des statues figées. D'ailleurs, leur orientation change selon l'état spirituel du peuple, on l'a dit, dos à dos ou face à face. C'est en fait, puisque le texte dans Shemot nous dit que la voix de Dieu sortait d'entre les deux kérouvim, eh bien, le point qui est entre eux est un point de rencontre entre le ciel et la terre. Mais ce n'est pas du tout des idoles. Ils ne sont pas adorés, ils ne représentent pas Dieu, comme on l'a dit, ce sont des instruments. De plus, comment pourraient-ils être des idoles alors que c'est Dieu lui-même qui a ordonné leur fabrication? Clairement, tu feras deux chérubins d'or. Et les sages concluent, ce que Dieu ordonne ne peut pas être idolâtrie. Et comme l'a dit le Midrash, celui qui interdit est celui qui permet, dans le sens de Hachem interdit, a interdit l'idolâtrie, mais il permet ces objets-là parce qu'ils ont une toute autre fonction, une toute autre fonction. On est dans la relation entre Hachem et Israël, et c'est pourquoi ces chérubins symbolisent l'union, l'amour, la proximité. Ils représentent Israël. Ils ne représentent pas du tout Dieu. En fait, ils sont une sorte de les chérubins et le couvercle de l'arche, parce que ils étaient dans le Mishkan, les chérubins faisaient partie, faisaient un seul bloc avec le couvercle de l'arche. Ce sera différent dans le cas du temple de Shlomo HaMelech. Mais nous parlons maintenant du Mishkan. Donc le Taporet, c'est-à-dire le couvercle et les chérubins qui faisaient un tout, étaient comme un trône pour la présence divine. Ce n'était pas une représentation de quoi que ce soit, c'était un objet qui était une sorte de trône. Le Ramban Nachmanide explique, l'arche, c'est donc la Torah, le couvercle, c'est le trône, et quant aux chérubins, on peut dire qu'ils sont des sortes de porteurs du trône, puisqu'il y a la voix divine entre eux. Donc, c'est le lieu où la voix de Hachem se manifeste. Encore une autre réponse que l'on peut apporter à cela, le Talmud le mentionne, le Midrash aussi, l'interdit porte sur des images autonomes, pas sur des images intégrées au culte. Disons que le Talmud distingue les images décoratives et des images fonctionnelles dans le culte. Là, ce n'est pas de l'esthétique, ce n'est pas une représentation du divin, ils sont intégrés dans la structure même du Mishkan. C'est un élément fonctionnel. Les chérubins sont un antidote à l'idolâtrie plutôt qu'un risque quelconque. On ne fiche pas là Dieu dans une forme. Au contraire, c'est une relation, ils expriment une relation vivante et changeante. Une petite synthèse sur tout cela, sur toutes ces réponses. Ils ne posent pas de problème d'idolâtrie parce que Dieu lui-même les a ordonnés, parce qu'ils ne représentent pas Dieu mais Israël, parce qu'ils ne sont pas adorés, personne ne les voit, sauf le Kohen Gadol une fois dans l'année. Ils sont un instrument du culte juif et pas du tout un objet de culte, instrument et pas objet. Ils symbolisent une relation vivante et pas une forme figée. Ils servent de trône à la Shekhinah et pas du tout d'image de Dieu. Et que, de surcroît, comme on l'a dit et comme le précise le Midrash, le Saint des Saints est un espace sans risque d'idolâtrie. Ainsi, on peut conclure que les chérubins ne sont pas une exception à l'interdit d'idolâtrie, ils sont la démonstration la plus profonde de cette interdiction. Maintenant, si l'on veut réfléchir selon les dimensions du Pardès, on peut, bon, le sens simple a déjà été présenté. Au niveau allusif, On l'a dit aussi, le Talmud l'a dit, ils avaient un visage d'enfant, etc. Et même encore plus loin, ils étaient enlacés comme un couple dans certains cas. Tout cela exprime une relation entre Dieu et Israël qui doit rester pure, simple, confiante. L'enfance, c'est l'innocence. Le couple, c'est l'allusion. On est dans le rémazim, donc c'est des allusions. L'enfance fait allusion à l'innocence. Le couple fait allusion à l'amour réciproque. Le face-à-face, c'est la fidélité, et le dos-à-dos, au contraire, l'éloignement. Ainsi, on a une représentation du peuple et non pas d'une divinité. Autre dimension, le drash. Le drash, c'est-à-dire comment les sages vont expliquer cela, eh bien, ils expliquent clairement que là où la présence divine réside, l'interdit n'a pas de prise, et l'interdit en question, quand bien même on dirait que c'est des statues qui ont été interdites, en présence de la Shekhinah, dans le Saint des Saints, cette objection ne tient pas. Si l'on veut explorer légèrement, mais aborder quand même le sujet du Sod, c'est-à-dire de la dimension mystique du Pardès, eh bien, les chérubins, c'est l'union des séphirot, tiferet et malchut. Le chérubin masculin, c'est Tiferet, l'harmonie, la révélation. Le chérubin féminin, c'était Malchut, c'est Malchut, la réceptivité, la Shekhinah. Leur union symbolise le Yihud, c'est-à-dire l'unification des mondes, le Zivug, l'union entre Dieu et Israël. Et comment dire, ils ont. C'est un réceptacle, en définitive. Ce n'est pas une image de Dieu, mais un canal, un réceptacle. En fait, il symbolise, dans ce niveau du Sod, l'union des séphirotes, et c'est un canal de révélation. Ainsi, si l'on veut faire une synthèse rapide de la question, des réponses à la question posée à propos des chérubins, eh bien, on peut dire que au niveau du Pshat, Dieu ordonne que l'on prépare des chérubins. Donc, il ne peut pas y avoir d'idolâtrie, comme nous dit Rambam, puisque c'est Dieu qui l'a ordonné. Rambam, c'est bien ça. Quant à la dimension remèze, ce n'est pas Dieu qu'il représente, mais Israël. La dimension drash, l'interdit n'a pas de prise là où réside la Shekhinah. Et enfin, la dimension sod, il représente l'union des séphirotes, et le point entre eux est un point un canal de la lumière divine. Si vous avez encore un petit peu de patience, on peut aborder une troisième partie qui est la différence entre le Mishkan et le temple concernant justement ces kérouvim. Car ils n'étaient pas présentés de la même manière, les différences étaient même assez grandes. Dans le Mishkan, on avait deux petits kérouvim posés sur le couvercle de l'arche, on l'a dit. Et ils étaient taillés d'une seule pièce, avec le caporet, ça aussi, on l'a expliqué. Mais ce que je n'avais pas précisé jusque-là, c'est qu'ils étaient petits, contrairement à ceux du temple de Shlomo HaMelech. Les kérouvim étaient alors totalement différents. Ils étaient très très grands. 10 coudées de haut, ça fait à peu près 5 mètres. Il était debout et il n'était pas fait d'or. C'était du bois d'olivier recouvert d'or. Et dans le premier des livres des rois, on lit, il fit dans le dévir deux chérubins de bois d'olivier sauvage et les recouvrit d'or, etc. Ils étaient posés au sol. Et leurs ailes étaient déployées d'un mur à l'autre. Et leur visage était tourné, grand changement par rapport au Mishkan, non pas vers l'arche, mais vers la maison, c'est-à-dire vers le Héchal. Et ainsi, ils regardaient l'extérieur du Saint des Saints. Il regardait en direction du peuple. Le regard vers dans le Mishkan, ils se regardaient d'abord l'un l'autre, bien entendu, et le regard pouvait descendre vers le couvercle de l'arche. Alors que dans le temple de Salomon, il regardait vers Israël, comme on vient de le dire, vers la partie Kodesh du Mishkan, du Beth Amidrash, bien sûr, de Shlomo. Quant au regard, à leur regard, ils variaient aussi selon leur comportement, d'une manière générale, hein. Donc ça, c'était un regard qui n'était jamais neutre. Il exprime la relation vivante, comme on l'a dit, entre Dieu et l'état spirituel du peuple. On conclura avec une remarque, toujours sur ses positions, sur ce qu'il faisait. Eh bien, lors de la destruction du temple, quand les Babyloniens sont entrés dans le Kodesh HaKodashim, ils ont vu les kéruvim enlacés, comme un couple uni. Et les sages expliquent cette apparence. Au moment de la destruction, lorsque tout semble totalement perdu, puisque Dieu a décidé la destruction du temple, c'est que tout est perdu. Irrémédiable? Eh bien non, pas irrémédiable. Ce n'est pas irrémédiable. Dieu montre par l'attitude, par la position de ses kéruvim que il aime encore Israël. Il continue à y avoir une communication qu'en fait Dieu n'a pas abandonné Israël. C'est un message d'espoir et d'une très grande profondeur. La relation entre Israël et Hachem peut malheureusement, chas v'shalom, être blessée, mais elle ne sera jamais rompue. Et cela, c'est un élément très très fort de l'espoir d'Israël, qui fait que pendant des siècles d'exil, eh bien, Israël a été confiant en Hachem, sachant que la relation avec Hachem était toujours très forte et que le moment viendra où il y aura une renaissance nationale en terre d'Israël, où il y aura une renaissance économique, une renaissance spirituelle, et que bientôt viendra le Mashiach. Bimera, Yemenu. Merci.